Et le journal de 6h vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Rentrée des classes à 10h. Premier conseil des ministres du gouvernement Borne. Sur le perron de l'Elysée, des figures de droite. Le maire Darmanin en tête, accompagné de personnalités de gauche aussi dans des ministères de premier plan.
Un rééquilibrage à moins de 3 semaines des élections législatives.
Le scrutin prévu les 12 et 19 juin prochains. Justement, Alexis de La Fontaine, la stratégie de l'exécutif, c'est de contrer la NUPES, l'alliance menée par Jean-Luc Mélenchon.
Oui, 12 des 26 nouveaux ministres viennent de la gauche, Elisabeth Borne en tête. Avec sa nomination, le président de la République veut rassurer son aile gauche, délaissée durant le premier quinquennat. Alors chargée de la planification environnementale, la première ministre doit séduire cet électorat tenté par la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Tout comme le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye est lui aussi en mission dans ces législatives. Sa nomination est la seule largement saluée par toute la gauche, jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Ce chercheur colonial et historien spécialiste des minorités est le symbole de cette rupture avec l'anti-woke Jean-Michel Blanquer. Bref, l'intention d'Emmanuel Macron est claire, élargir vers la gauche pour couper l'herbe sous le pied de Jean-Luc Mélenchon.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. 6h01, des bombardements nuit et jour dans le Donbass en Ukraine. Une situation de plus en plus difficile, décrit le gouverneur de la région de Lugansk. La cible de Moscou s'appelle Severodonetsk, ville à l'est du pays.
Et c'est à Kiev, la capitale, qu'est attendu ce lundi le verdict du premier procès pour crime de guerre.
Oui, un soldat russe est accusé d'avoir tué un civil de 62 ans désarmé. Il risque la prison à perpétuité. La peine de mort n'existe pas en Ukraine.
Votre département sera-t-il menacé par la sécheresse d'ici l'été? C'est fort possible si l'on en croit la carte du ministère de la Transition écologique. En tout cas, il y a un risque probable dans la moitié des territoires.
Nous vivons d'ailleurs le mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans notre pays. Un printemps sec aussi, 30% de déficit pluviométrique selon Météo France. 16 départements sont soumis à des restrictions sur l'utilisation d'eau, un phénomène aggravé forcément par le dérèglement climatique. Louise Salé, forcément la question se pose, va-t-on finir par manquer d'eau potable en France?
Oui, c'est un risque, surtout que cela s'est déjà produit, rappelle l'hydrologue Emma Aziza.
On a déjà manqué d'eau en France. Il y a 5 ans, c'était vraiment un scénario de fiction inimaginable, mais il suffit de prendre l'année 2019 et cette sécheresse historique pour comprendre que 20 départements se sont retrouvés avec des problèmes d'approvisionnement en eau. Des villes entières ont dû être alimentées par des camions-citernes. C'est un scénario qui est là, déjà présent et encore plus devant nous.
Parce qu'il pleut moins l'hiver, les nappes se vident. En 2070, leur rythme de recharge devrait baisser au moins de 30%.
Il y aura sans doute des problèmes d'alimentation en eau potable dans les zones qui subissent les plus forts déficits. Le pourtour méditerranéen est particulièrement concerné, la Provence, toute la zone du Poitou-Charentes. Et puis on a le Grand Est, la vallée du Rhône. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à notre approvisionnement en eau.
Pour que tout le monde soit approvisionné en eau potable, des solutions existent, creusées plus de nappes artificielles par exemple, le pays n'en compte qu'une vingtaine, et repérer les fuites sur les réseaux à l'aide d'outils technologiques. Il faut savoir que 20% de l'eau puisée par une collectivité ne parvient jamais jusqu'au foyer, mais des algorithmes peuvent désormais prévoir la façon dont une canalisation s'abîme au cours du temps pour la renouveler au bon moment et au bon endroit afin d'éviter toute fuite d'eau.
Louis Salé, spécialiste environnement d'Europe 1. Il prend la tête du plus puissant diocèse de France, Monseigneur Ulrich ses fonctions à Paris dès aujourd'hui.
L'ancien archevêque de Lille remplace Monseigneur Aupetit qui a démissionné en décembre.
Son successeur célébrera donc les vêpres sur le Paris de Notre-Dame de Paris à 16h avant une messe à Saint-Sulpice. Guillaume Dominguez, l'homme de 71 ans, est déjà attendu sur des dossiers déterminants.
Oui, réputé pour accorder beaucoup d'importance au dialogue dans la prise de décision, Monseigneur Ulrich aura pour premier chantier d'apaiser les tensions au sein du diocèse de Paris, divisé après la polémique sur la gouvernance de son prédécesseur, Monseigneur Aupetit. Une épreuve taillée pour le personnage, selon l'un de ses anciens collaborateurs à Lille, le père Benoît de Cinetti.
C'est un homme sage, pragmatique, qui réfléchit, qui prend le temps de mesurer les conséquences des décisions qu'il doit prendre, de prendre conseil, s'informer de ce qui est vécu sur place.
L'autre grand chantier du nouvel archevêque de Paris, c'est Notre-Dame et la rénovation de l'intérieur de la cathédrale. C'est lui qui aura le dernier mot sur le projet retenu, avec la lourde tâche de contenter fidèles et pouvoirs publics. Là encore, pour le père Benoît de Cinetti, Monseigneur Ulrich saura se montrer à la hauteur.
Ce dont je suis certain, c'est que c'est pas un homme qui se laisse impressionner. Peu importe l'interlocuteur, que ce soit un curé de paroisse, un paroissien, un responsable politique, c'est un homme qui cherche à prendre la bonne décision.
Avec la nomination de Monseigneur Ulrich, le Vatican veut redorer l'image du diocèse de Paris, vitrine de l'Église de France.
Guillaume Dominguez.
Paris, où vous aurez du mal à circuler aujourd'hui en bus et en tramway.
Oui, trafic fortement perturbé à la RATP ce lundi. Certaines lignes de bus seront même interrompues. Pour les autres sections, comptez 2 bus sur 3. Côté tramway, 5 lignes sur 8 seront affectées par ce mouvement social. Tout roule, en revanche, côté métro et RER.
De Paris à Cannes, on part au festival avec un événement inédit hier soir.
Oui, première montée des marches pour les compositeurs de musique de film. Une trentaine de musiciens, ceux des films présentés sur la croisette. Lumière, donc sur une profession habituée à la fin du générique. Le reportage de notre envoyé spécial à Cannes, Marie Jiquel.
Beaucoup de spectateurs l'ignorent, mais le compositeur de musique de film est considéré comme le troisième auteur d'une œuvre cinématographique après le réalisateur et le scénariste selon le code de la propriété intellectuelle. Et pourtant, leur nom s'affiche tardivement au générique. François Besson, le directeur de l'action culturelle de la SACEM.
C'est simplement une question que les professionnels du secteur fassent les différences entre un auteur, ce qu'est un compositeur, un auteur du film, et puis les autres professions qui sont tout aussi indispensables à la réalisation d'un film et qui n'ont pas le même statut.
Selon le compositeur oscarisé Gabriel Yared, présent à Cannes, les compositeurs profitent tout de même ces derniers temps d'un regain de considération.
Mais vous savez, les compositeurs de musique sont de moins en moins dans l'ombre, je pense, à voir le nombre de concerts de musique de film qui se fait, et puis aussi cette montée des marges. Je crois que de plus en plus des opérations comme celle-ci peuvent avoir lieu à Cannes. Y aura-t-il un jour un prix? Je ne sais pas.
En attendant, les musiciens peuvent se tourner vers le prix indépendant du festival, le Cannes Soundtrack. Pas de palme, mais un disque d'or remis ce vendredi.
Marie Jiquel à Cannes pour Europe 1.
Et c'était le journal de Romane Hocquet. Merci beaucoup, Romane.